Chapitre 3. Le lien au niveau du corps. Considérons tout d'abord différentes perspectives sur le rapport que nous entretenons avec nos corps. Le corps méprisé. De tout temps, et parfois parmi les disciples les plus ferventes, le corps a été considéré comme un obstacle qui nous sépare de Dieu. Limité et mortel, il a été regardé comme impur et son aspect charnel a été assimilé au péché. Il a alors été méprisé comme une valeur secondaire dont on espère se débarrasser bientôt. Un tel concept n'est pas sans conséquence. Il favorise ou justifie une présentation vestimentaire négligée, une hygiène et des soins déficients, une désinvolture face aux exigences de santé et peut entraîner des dépendances de toutes sortes. Une personne seule assumera la plupart des répercussions de cet état de fait, mais une personne mariée en fera terriblement souffrir son entourage et particulièrement son conjoint. Le corps adulé. À l'autre extrême, nous trouvons une foule de gens qui semblent ne vivre que pour leur corps. Objet d'orgueil, de plaisirs dévoyés et de commerce, on l'expose, on le compare, on le muscle à outrance, on le dope, on dépense des fortunes pour en changer la couleur ou la forme, en combattre le vieillissement et le rendre si possible éternel. Finalement, on le sert et on l'adore. Le corps dans la perspective biblique. Je vous propose un rapide survol biblique pour rafraîchir notre mémoire et comme base de l'alliance à trois niveaux que nous considérons. Or, c'est en lui seul, donc Christ, et en son corps, que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. En parlant du temple, Jésus pensait à celui de son propre corps. Jean 22, verset 21. Il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps, sur le gibet, pour que nous cessions de vivre dans nos péchés et que nous puissions mener une vie juste. 1 Pierre 2, verset 24. Dieu, loin de mépriser le corps humain, s'est fait homme. La parole a été faite chair. Son corps, habité de toute la plénitude divine, a été cloué à la croix. Il est mort, puis il est ressuscité et a été glorifié. Dieu a fait une alliance éternelle avec l'humanité, et le corps y occupe une place essentielle. Qu'en est-il pour nous, peuple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, verset 19. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Romains 12, verset 1. Que le Dieu qui donne la paix fasse que vous soyez complètement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps sans tache pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 28. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. Aimer son corps, le soigner, le respecter, l'offrir à Dieu, en faire un instrument juste, honnête et saint, voilà ce que l'Écriture nous enseigne. Cependant, notre corps nous a été donné comme serviteur. Si nous lui donnons la place de maître, initiateur de nos décisions, il nous conduira très vite à la destruction. Un chauffeur qui maîtrise son véhicule sera apprécié, mais qui ferait confiance à un chauffeur dominé par sa machine? Paul, parlant de son corps, déclare « Je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé les règles de la compétition, je ne me trouve moi-même disqualifié. » 1 Corinthiens 9, verset 27. Bien que mortel, notre corps a un avenir. Car il faut que ce corps corruptible se revête d'incorruptibilité et que ce corps mortel se revête d'immortalité. 1 Corinthiens 15, verset 53. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale est la transformation de notre corps. Romains 8, verset 23. Notre corps actuel sera changé, transformé, revêtu. Ce ne sera pas une recréation indépendante, mais bien une résurrection, quand bien même Dieu devrait rassembler pour cela des molécules de poussière dispersées sur les 5 continents, conformément à Jean 5, verset 29, Apocalypse 20, 12 à 13. Le corps dans le couple. Pour vivre, notre corps a besoin d'énergie. Le Créateur, pour y pourvoir, aurait pu concevoir un système d'alimentation primitif, comme on fait le plein d'essence pour la voiture, ou comme on branche l'aspirateur sur le courant. Heureusement, dans sa bonté, Dieu a joint l'agréable à l'utile. C'est ainsi que la variété d'aliments et de boissons disponibles sur notre planète, en goût et en couleur, est quasi infinie. Mais que nous servirait-il d'avoir une alimentation si riche si notre corps était incapable de distinguer entre un jus d'ananas et du lait, ou entre une forêt noire et des morilles? Dieu ne s'est pourtant pas arrêté là. Il a voulu que cette absorption quotidienne d'énergie soit non seulement agréable, mais aussi l'occasion de relations humaines inestimables, depuis la tétée pour le bébé jusqu'au repas en couple, en famille, entre amis et dans mille autres relations humaines rythmant notre existence. Nous retrouvons pour notre bonheur le même principe quant à la nécessité pour l'humanité de se reproduire. Les scientifiques ont démontré que la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule pouvait se faire au fond d'une simple éprouvette, dans la froideur technique et mathématique d'un laboratoire. Mais Dieu a choisi d'englober la vie entière et des sentiments d'émerveillement sans cesse renouvelés autour de l'acte conjugal. Il a voulu qu'une nouvelle vie puisse jaillir dans le sanctuaire formé par l'amour et la fidélité de deux êtres. Ainsi, communion, amour et sécurité forment le berceau de la vie. Nous verrons aussi qu'indépendamment de l'aspect souligné ici, cette union physique est un élément essentiel de la vie du couple. Elle englobe les 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Il n'est pas étonnant que la conjugaison de tout ce que le corps peut ressentir produise une euphorie noble et pure. En comparaison, l'effet du vin ou des drogues ne peut que paraître terne ou même misérable. L'ivresse amoureuse. La Bible, dans le livre du Cantique des Cantiques en particulier, que je vous recommande de lire dans la version en français courant, montre sans détour la plénitude que Dieu donne à l'homme par le corps de la femme réciproquement. Lui, quelle est donc cette femme qui a la fierté de l'aurore, la beauté de la lune, l'éclat du soleil, et vous trouble autant qu'un mirage? Cantique chapitre 6, verset 10. Je n'y comprends plus rien. Tu me fais perdre mes moyens, fille de noble race. Cantique 6, verset 12. Par un seul de tes regards, tu me fais battre le cœur, petite sœur, ma promise. Une seule des chaînettes qui ornent ton cou suffit à me garder prisonnier. Comme ton amour me ravit, je le trouve plus enivrant que le vin, et ton huile parfumée m'enchante plus que tous les baumes odorantes. Cantique 4, verset 9 à 12. Elle. Ah, fille de la capitale, je vous le demande instamment, si vous rencontrez mon bien-aimé, que raconterez-vous? Que je suis malade d'amour. Dites-le-lui. Cantique 5, verset 8. Embrasse-moi, embrasse-moi donc. Ton amour m'enivre plus que le vin, plus que la senteur de ton huile parfumée. Tu es séduisant comme un parfum raffiné. Il n'est pas étonnant que toutes les filles soient amoureuses de toi. Cantique 1, verset 2 à 3. Il m'a conduite au palais de l'ivresse, sous l'enseigne « À l'amour ». Cantique 2, verset 4. Examinons les composantes de cette attirance fantastique et enivrante que Dieu a voulu dans le couple et dont nous parlent ces passages. Il faut cependant souligner que le lien du corps ne se résume évidemment pas à la relation sexuelle, même si elle en est un aspect important et culminant. L'acte conjugal ne représente assurément qu'une faible partie du temps passé ensemble. De nombreuses paroles bibliques montre comment nos cinq sens tissent et alimentent l'alliance ou le lien physique d'une manière globale dans le couple. La beauté physique, la vue. L'homme est particulièrement sensible à ce qu'il voit. Quelqu'un a dit qu'il a de grands yeux. « Tu es belle, ma tendre amie, comme la cité de Tirsa la Jolie, ravissante comme Jérusalem, troublante comme un mirage. » Cantique 6, verset 4. « Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle. Tes yeux ont le charme des colombes. » Cantique 1, verset 15. Des pendants d'oreilles rehaussent la beauté de tes joues et un collier de coquillages, l'élégance de ton cou. Cantique 1, verset 10. Tout en toi est beauté et sans aucun défaut. Cantique 4, verset 7. La courbe de tes hanches fait penser à un collier sorti des mains d'un artiste. Cantique 7, verset 2. L'émerveillement de l'homme pour sa compagne le comble et provoque admiration, éblouissement et ivresse. Cet amour donne à l'héroïne du Cantique des Cantiques le grand bonheur d'être libre et vrai. Elle prend conscience de sa beauté. J'ai beau avoir le teint bronzé, je suis jolie comme les tentes des Bédouins, comme les tapisseries de luxe. Je suis une fleur de la plaine du Saron, une anémone des vallées. Cantique 1, verset 5, 2, verset 1. Réciproquement, la femme n'est pas insensible à la beauté de son compagnon. Toi aussi, mon amour, tu es beau, tu es superbe. Cantique 1, verset 16. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Cantique 5, verset 10 à 16. Elle parle encore de son visage, de ses cheveux, de ses yeux, de ses lèvres, de son teint resplendissant. Elle compare ses bras à un anneau d'or et ses jambes à des colonnes de marbre. Il a fière allure et la distinction des cèdres. Cantique 5, verset 10 à 16. Pour elle, il a l'agilité d'un jeune cerf. Cantique 2, verset 8 à 9. La beauté de l'épouse, après le mariage, est tout aussi importante que celle de la fiancée, avant le mariage. Si nous reprenons l'exemple de Rebecca, ces deux saisons sont mentionnées ainsi. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Genèse 24, verset 16. Il, donc Isaac, n'osait pas dire que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ses gens à cause d'elle, tellement elle était belle. Genèse 26, verset 7. Il en était de même pour Sarai. Abraham descendit en Égypte. Il dit à sa femme, Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Alors ils me tueront et te laisseront la vie. » Genèse 12, verset 10 à 12. Le Seigneur compare Jérusalem à une enfant qu'il a adoptée. Il décrit le développement de son incomparable beauté par la bouche du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 4 à 14. Il est étonnant de voir la métamorphose que Dieu a prévue entre la fillette passant inaperçue et la jeune fille pleine de charme qui se présente quelques années plus tard. À cause de sa grande sensibilité dans ce domaine, le jeune homme qui veut réussir son mariage doit se souvenir que la beauté intérieure d'une femme est plus importante encore que sa beauté extérieure. Les mises en garde bibliques sont nombreuses. Les sollicitations d'une femme infidèle sont sucrées comme le miel, onctueuses comme l'huile. Mais cette femme laisse finalement autant de dégoût qu'une plante amère. Elle blesse comme une arme à double tranchant. Proverbe 5, versets 3 à 4. Et voilà qu'il la suit comme un bœuf va à l'abattoir. Proverbe 7, verset 22. Mais heureux l'homme qui découvre la sagesse et acquiert l'intelligence. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. Elles te feront vivre d'une vie véritable et belle. Le soir tu te coucheras sans peur, et la nuit ton sommeil sera paisible. Car le Seigneur te gardera en sécurité, il écartera tout piège de tes pas. Proverbe 3, versets 13 à 14, versets 22, 24 et 26. Celui-là pourra savourer ces paroles. Ta femme est comme une source d'eau pure. Réjouis-toi toujours de vivre avec celle que tu as choisie dans ta jeunesse et rends-la heureuse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle. Que son corps te comble toujours de joie. Sois sans cesse heureux de son amour. Proverbe 5, versets 15 et 18 à 19. Cette beauté aussi variée que personnelle s'épanouit encore lorsque l'élu est trouvé. Le jeune époux, qu'il l'exprime ou non, sera très sensible à la mise en valeur ou non de la beauté de son épouse. Quelques-unes, malheureusement, sont méconnaissables dès le retour de leur voyage de noces. Elles nous avaient habitués au rayonnement si singulier de la fiancée, et les voici devenues ternes, comme si le seul but de la beauté était de trouver un mari, pour ensuite ranger son charme à jamais dans l'armoire de l'oubli. Le contraire, heureusement, existe aussi, et de nombreuses épouses savent cultiver une beauté intérieure et extérieure avec une élégance certaine jusqu'à un âge avancé. Le langage. L'ouïe. Si l'homme a de grands yeux, la femme, elle, a de grandes oreilles. Non celles qui se voient, mais bien celles du cœur. La femme est particulièrement sensible à ce qu'elle entend. Si l'amour commande à la fiancée et à l'épouse d'être un festin pour les yeux de son fiancé et de son mari, il commande aussi à ce dernier d'être source de paroles vivifiantes pour les oreilles et le cœur, non seulement de sa fiancée, mais surtout de son épouse. Comme la jeune épouse qui range son charme au retour du voyage de noces, la faute de trop de maris est de cesser de communiquer verbalement leur amour, à peu près au même moment. Ces deux attitudes font partie des plus grandes erreurs qu'un jeune couple puisse commettre. L'élu semble si fier et si touché lorsqu'elle s'exclame « Maintenant il me parle » Cantique 2, verset 10. Que lui dit-il ? Son bien-aimé lui fait la cour et laisse parler son cœur émerveillé par l'élégance de sa prestance, ses vêtements, sa ligne élancée, ses mèches de cheveux, le charme de ses yeux, son regard qui lui fait battre le cœur, son visage, ses boucles d'oreilles, son nez gracieux, ses joues, ses lèvres, la fraîcheur de son haleine, le collier qui rehausse l'élégance de son cou, ses seins, la courbe de ses hanches, ses pieds si jolis et son corps tout entier. « Que tu es belle et gracieuse, mon amour, toi qui fais mes délices. » Cantique 1, verset 9 à 10, 1, verset 15, 4, verset 1 à 15, 6, verset 4 à 7, 7, verset 2 à 10. Il lui parle du printemps et du temps où tout chante, de la tourterelle, des figues, de la vigne, des collines et des jardins, des lauriers et de leurs parfums. Cantique 2, verset 10 à 14. Il l'appelle « Princesse, ma tendre amie, ma colombe, ma belle, mon amour, ma promise, petite sœur, mon trésor. » Cantique 5, verset 2b et 7, verset 2. Ces déclarations puisent leur richesse en trois domaines. La description de l'être aimé, la description de la création, des saisons, de leur environnement, de leur projet commun. Les noms qu'il donne à son ami. Il lui dit « Ma colombe, montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable. Et ton visage est si joli. » Cantique 2, verset 14. Le jeune homme amoureux ne tarit pas de paroles. Mais l'homme marié en est trop souvent avare, et parfois, dès les premiers mois de mariage. La jeune épouse sera alors rapidement comme affamée et triste de ce manque de dialogue. L'homme sage doit apprendre non seulement à converser avec sa fiancée, mais surtout avec son épouse. Nous verrons au chapitre suivant comment l'épouse peut nourrir ce dialogue ou le ressusciter si nécessaire. Les sentiments évoqués ici n'ont pas de connotation trompeuse ou égocentrique, mais suscitent le respect et la reconnaissance pour le privilège de cet amour qui entraîne naturellement le don de soi. Elle le nomme « mon bien-aimé, mon roi, mon ami, mon amour, « celui que j'aime. » Elle lui dit son bonheur, sa reconnaissance, et s'offre à lui. Cantique 1, verset 7, 12 à 14, 16 à 17, 2, versets 1, versets 3 à 6, versets 16 à 17. 4, verset 16. 7, verset 10b à 14. 8, verset 1 à 2. 5b à 7. Cette sensibilité à la parole peut cependant être fatale à la jeune fille. Combien d'entre elles se sont laissées charmer par un beau parleur qui s'est révélé être un serpent? L'expression semblerait trop forte, sauf si nous ouvrons les yeux et comprenons que cette mésaventure se produit jusque devant notre porte et parmi les jeunes filles de notre propre groupe de jeunes et de notre Église. L'attirance physique, le toucher. Sa bouche est douce à mon baiser. Tout en lui appelle mon désir. Voilà mon bien-aimé, fille de la capitale. Voilà mon ami. Sa main gauche soutient ma tête. Son bras droit m'enlace la taille. Cantique 8, verset 3. Aimer véritablement son compagnon ou sa compagne, c'est rechercher les expressions qui satisfont l'autre. L'homme et la femme sont différents. Vouloir imposer ce que nous aimons au niveau du toucher à notre conjoint est une pratique aussi courante qu'insensée. Chercher à découvrir ce qui le rend heureux est le défi de l'amour véritable. Une épouse, par exemple, qui couvre sans cesse son mari de bisous, alors que celui-ci y est allergique et se néglige physiquement, alors que son mari le ressent comme un déshonneur personnel, manifeste un manque cruel d'amour vrai et de bon sens. De même, un mari qui ne parle jamais tendrement à l'oreille de son épouse ne lui fait ni compliments, ni cadeaux, tout en exigeant des relations conjugales fréquentes, semble tout ignorer de l'amour au féminin. Nous parlions de ces différences dans une sympathique famille du pays de Montbéliard, lorsque l'un de nous proposa un essai sur le vif. Avec son accord, je me suis tourné vers la petite fille de 6 ans, et lui ai envoyé par la poste 3 ou 4 bisous. Elle a souri et a cligné des yeux, visiblement réjouie. Puis elle s'est tournée vers son petit frère de 2 ans, assis à quelques mètres de là, et a refait pour lui ce que je venais de lui faire. Celui-ci a détourné la tête et s'est mis à gémir. Il y a malheureusement tant de couples qui n'ont jamais compris ces principes les plus élémentaires et en souffrent toute leur vie. S'il est difficile, mais non impossible, de corriger les choses après 20 ans de vie commune, il est plus facile de prendre un bon départ. Il est étonnant de voir avec quelle sensibilité et facilité nous appliquons ce principe avec notre chien ou notre chat. Nous connaissons tout ce qu'il aime et tout ce qu'il déteste, et nous adaptons nos gestes et habitudes en conséquence. Et combien nous pouvons être réticents et lents à le comprendre envers notre prochain par excellence. Cela ne veut pas dire qu'il faille accepter n'importe quoi et devenir l'esclave des caprices de son conjoint. Mais comprenons qu'entre cet extrême et un amour insensible et égoïste, il y a un espace considérable à découvrir pour le bonheur de l'autre. Notons que l'initiative d'un moment d'intimité n'est pas l'exclusivité de l'époux. On peut aisément imaginer la surprise et le bonheur de beaucoup s'ils entendaient leur épouse leur dire « Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons. Tu es mon roi, conduis-moi dans ta chambre, rends-nous follement heureux tous les deux. » Cantique 1, verset 4. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si le grenadier fleurisse. Là, je te donnerai mon amour. Cantique 7, verset 11. Le parfum, l'odorat. Lui, les vêtements que tu portes ont l'odeur des bois du Liban. Cantique 4, verset 11. Elle, pendant que mon roi est à son festin, mon parfum de nard répond sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe odorante qui repose entre mes seins. Cantique 1, verset 12 à 13. Lui, tu as la fraîcheur d'un verger, de paradis planté de grenadiers aux fruits exquis. S'y croisent les parfums du henné et du nard et du safran, du laurier et de la cannelle, avec ceux de tous les bois odorants, et aussi les senteurs du myrrhe et d'aloès, avec celles des baumes les plus fins. Cantique 4, verset 13 à 14. Lui, le bas de ton ventre est une coupe ronde où le vin parfumé ne devrait pas manquer. Cantique 7, verset 3. Elle, comme un nuage odorant de myrrhe, d'encens et de parfums exotiques en tout genre, ainsi est le lit de son bien-aimé. Cantique 3, verset 6. Encore, un foyer, des vêtements qui sentent bon sont le fruit de l'amour. Cette bonne odeur suppose certainement une discipline et un travail indéniable, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Écriture y accorde une importance déterminante. Le parfum est comme l'expression silencieuse de l'accueil, la bienvenue et l'hospitalité. Le goût. Elle, à son ombre, j'ai plaisir à m'asseoir et je trouve à ses fruits un goût délicieux. Cantique 2, verset 3b. Lui, ma promise, sur tes lèvres, mon baiser recueille un suc de fleurs, et ta langue cache un lait parfumé de miel. Cantique 4, verset 11. Elle, ses lèvres ont l'éclat de l'anémone où perle une huile de myrrhe. Cantique 5, verset 13. Si, pour mieux saisir la force de l'expression amoureuse imaginée et concrétisée par Dieu, nous l'avons ici fractionnée, bien des passages de ce cantique intègrent les cinq sens à la fois. Lui, que tes seins soient aussi pour moi comme des grappes de raisin, et le parfum de ton haleine comme l'odeur des pommes, que ta bouche m'enivre comme le bon vin. Cantique 7, verset 9b à 10. Elle, réveillez-vous, venez, vent du nord et du midi, répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis. Lui, je viens à mon jardin, petite sœur, ma promise, et j'y fais ma cueillette de myrrhe et d'herbes parfumées. J'y mange mon rayon de miel, j'y bois mon vin et mon lait. Cantique 4, verset 16 à 5, verset 1. Comme nous l'avons vu, la tendresse, le respect, la reconnaissance émanent de chaque verset de la parole de Dieu au sujet de l'intimité conjugale. La brutalité, la domination et la revendication prônées par certains cinéastes et pratiquées par de nombreux maris dénaturent et souillent l'une des plus belles choses sorties des mains du Créateur. Voyons ensemble quelques éléments complémentaires qui caractérisent cette intimité. L'exclusivité, source naturelle de fidélité. Lui, oui, une anémone parmi les ronces, voilà ma tendre amie parmi les autres filles. Cantique 2, verset 2. Elle, un pommier parmi les arbres du bois, voilà mon bien-aimé parmi les autres garçons. Cantique 2, verset 3. Elle, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Cantique 2, verset 16. Lui, tu es mon jardin privé, petite sœur, ma promise, ma source personnelle, ma fontaine réservée. Cantique 4, verset 12. Elle, mon bien-aimé, est reconnaissable entre 10 000 à son teint resplendissant et cuivré. Cantique 5, verset 10. Lui, le roi peut bien avoir 60 reines, 80 concubines et des jeunes femmes sans nombre. Pour moi, il n'y a qu'une femme au monde. C'est ma colombe, c'est mon trésor. Cantique 6, verset 8 à 9. Elle, je suis à mon bien-aimé, et c'est moi qu'il désire. Cantique 7, verset 11. Elle, place-moi contre ton cœur, comme ton cachet personnel. Garde-moi près de toi, comme la pierre gravée à ton nom que tu portes au bras. Cantique 8, verset 6 à. Dans un pays qui venait de réintroduire officiellement la polygamie, j'ai entendu parler d'un homme qui avait épousé devant le maire, le même jour, 4 jeunes filles. Cette pratique anéantit d'un seul coup le miracle de l'union de 2 êtres qui n'en forment plus qu'un. Cette intimité à deux qui englobe, comme nous allons le voir, non seulement le corps, mais également l'âme et l'esprit, est une expérience unique dans la vie sur terre. Notre personnalité est façonnée naturellement pour tendre à cette complicité exclusive. Elle se révèle premièrement dans les noms que se donnent les élus. mon amour, mon trésor. En comparaison, les noms que l'entourage leur donne semblent presque vulgaires. La belle, ton amoureux. Et ils le leur rendent bien, puisque lui voit toutes les autres jeunes filles comme des ronces. Quant à elle, elle voit tous les autres jeunes gens comme des arbres de la forêt. L'Ancien Testament ne cache rien des rivalités farouches, des drames et des injustices qu'engendre la polygamie. Jamais l'Écriture ne parle de bonheur dans ce genre de relation, mais elle abonde en promesses de plénitude pour le couple. L'homme n'est pas appelé à s'attacher à ses femmes, mais à sa femme. De même, la femme n'est pas appelée à s'attacher à ses maris, mais à son mari. Ils ne sont plus deux, pas trois ou cinq, mais un. La sécurité. C'est la litière du roi Salomon, entourée de 60 hommes d'élite, de l'élite d'Israël. Ils sont tous armés de l'épée et entraînés au combat. Chacun porte son arme à la hanche pour faire face aux dangers de la nuit. Cantique 3, versets 7 à 8. D'une manière générale, l'insécurité vole tout sentiment de plénitude. La joie et l'amour fleurissent dans la paix. Comme nous le verrons plus loin, la sécurité est un élément primordial pour la femme. Cette valeur vient premièrement de son bien-aimé, son attitude, son caractère, sa parole sûre, mais aussi, comme ici, du contexte. Ne pas être dérangé ou menacé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. L'intimité, l'exclusivité et la discrétion recommandées par l'enseignement biblique sont aux antipodes du déballage médiatique actuel où l'ivresse naturelle de l'amour se transforme en acharnement bestial et en marchandise commerciale à exposer et à vendre à tout prix. Comme nous l'avons vu, l'intimité d'un couple grandit sainement quand elle se vit en harmonie avec l'assurance d'avoir fait le bon choix. Par la suite, l'amour conjugal s'épanouira d'autant mieux que les fréquentations et les fiançailles auront été vécues dans le respect de l'autre. Le déchaînement actuel des médias sur le sexe demande un effort supplémentaire à tous ceux qui veulent marcher dans la droiture et rester libres de penser et d'agir. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les fruits du discours sexiste sont tellement médiocres qu'il ne serait pas étonnant de voir, par effet de balancier, un mouvement de société pris de haut le cœur les vomir de dégoût. Quant à ceux qui ont choisi Christ, ils n'ont pas besoin de se balancer d'un extrême à l'autre, mais ils peuvent tenir ferme dans une sexualité qui n'est ni adorée ni reniée. La sagesse a envoyé ses servantes lancer cette invitation à l'endroit le plus élevé de la ville. « Vous, les ignorants, accourez donc par ici !» Elle a fait dire à ceux qui manquent d'intelligence, « Venez vous nourrir à ma table et boire le vin que j'ai préparé. Quittez la compagnie des ignorants et vous vivrez. Prenez donc le chemin où se trouve l'intelligence. » Conformément à Proverbe 9, versets 1 à 6. Considérons donc, pour terminer, ce chapitre. 10 bonnes raisons de réserver les relations sexuelles pour le mariage. 1. Un cadeau est plus beau quand c'est une surprise. Imaginez que votre père ait décidé, comme vous le devinez, de vous offrir la moto de vos rêves pour votre 20e anniversaire. Deux semaines avant la date, vous apercevez un très gros paquet dans le réduit au fond de la cour. Les deux premiers jours, vous vous interdisez de passer à proximité. Un cadeau, c'est un cadeau. Et une surprise, c'est une surprise. Telle est votre confession de foi en la matière depuis votre plus tendre enfance. Mais le cinquième jour, juste pour mieux vous réjouir, vous vous approchez du paquet et cherchez à soupçonner son contenu. Le septième jour, vous n'y tenez plus. Il faut que vous voyiez la couleur de l'objet tant désiré. Furtivement, vous vous en approchez et vous écartez l'emballage. « Oh, quelle merveille » pensez-vous. « Cette fois, j'en sais assez. » Deux jours plus tard, personne n'est dans les parages. Vous allez au réduit et ouvrez l'emballage. La carrosserie est parfaite. Tout sent bon le neuf. La clé de contact est là. Vous luttez avec votre conscience. Mon père serait très déçu de moi s'il me voyait. Écoute seulement un instant le moteur, souffle le tentateur. Vous enfourchez la moto, mettez le contact et actionnez le démarreur. La mécanique d'œuvre réagit au quart de tour et envoie à votre oreille un ronronnement sourd et profond qui vous fait battre le cœur. Cette fois, ça suffit, vous promettez-vous intérieurement. Il ne reste maintenant que 48 heures jusqu'au précieux jour, mais le tentateur revient à la charge. Si tu l'essayais, juste un petit tour, personne n'en saurait rien et ça ne fera aucune différence. Vous vous rendez jusqu'à la moto, la déballez entièrement et la poussez jusqu'à la route. Vous voilà parti. C'est à la fois grisant et triste. Votre bonheur est voilé, votre enthousiasme teinté de regrets. Vous rentrez furtivement, espérant qu'aucun voisin ne se soit aperçu de quoi que ce soit. Vous remballez le précieux cadeau en tremblant un peu. Le matin de vos 20 ans arrive. L'enthousiasme de votre père vous oblige à entrer dans une funeste comédie. La surprise est passée. Le suspense a disparu, mais vous faites semblant de les vivre pour cacher votre faute. Ce jour que vous aviez évoqué 1000 fois ensemble, ce jour unique dans la vie, est maintenant voilé par le mensonge. Vous avez une magnifique moto, mais vous la connaissez déjà, et sans restauration de la vérité, elle pourrait bien rester marquée d'un goût amer. Les amis, les médias, les collègues et le diable en personne pourraient former une chorale pour vous chanter sur tous les tons que les relations sexuelles avant le mariage sont belles, normales et nécessaires. Votre divin fabricant et de bien meilleurs conseils. 2. L'ordre créationnel. Dans saint passage, allant de la Genèse à l'épître aux Éphésiens, et cité à 2 reprises par Jésus lui-même, la Bible nous enseigne que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24, Matthieu 19, verset 5, Marc 10, verset 7, 1 Corinthiens 6, verset 16, Éphésiens 5, verset 31. La diversité des peuples et leurs cultures respectives ont pour but de glorifier Dieu. Ce qui est supraculturel, car d'ordre créationnel et divin, ce sont les 3 étapes qui conduisent à créer une cellule familiale saine et, par conséquent, une société saine. Regardons-les attentivement. Premièrement, quitter. Cela implique pour l'homme et la femme le courage de prendre leur envol en formant une nouvelle cellule, autonome et séparée des parents. Deuxièmement, s'attacher ou faire alliance ensemble. Désormais, pour eux et aux yeux de tous, cette femme sera son épouse, cet homme sera son mari. Troisièmement, devenir une seule chair, s'unir sexuellement. Un homme, pour vous connaître sexuellement, doit faire alliance avec vous, et vice-versa. Cette relation doit avoir lieu dans un sanctuaire nouveau, fait d'amour et de fidélité, et potentiellement capable d'accueillir la vie. Comme les points suivants le démontrent, le pouvoir sans responsabilité est source de terribles déceptions et n'offre aucune sécurité. Donner autorité à quelqu'un sur son corps sans que celui-ci en prenne la responsabilité laisse des plaies béantes qui parfois ne guériront jamais. 3. L'amour vrai, c'est attendre. Des dizaines de milliers de jeunes le proclament et le vivent. Ils sont une voix prophétique qui crie au coin des rues et sur les places publiques. Quelqu'un a dit, « L'amour peut toujours attendre pour se donner, mais la convoitise ne peut pas attendre pour prendre. » Si tu m'aimes, couche avec moi, n'est pas l'expression de l'amour, mais la vieille rengaine de la convoitise. Pour Jacob, celui que Dieu appellera Israël, les 7 ans qu'il passa à servir Laban dans le but d'épouser sa fille Rachel semblèrent passer aussi vite que quelques jours, tant il l'aimait, conformément à Genèse, chapitre 29, verset 20. Si Jacob avait convoité Rachel, cette attente aurait semblé au contraire interminable. Mais la joie de vivre non loin de celle qu'il aimait a illuminé ses années. Il est vrai que cette période exceptionnellement longue est davantage due aux exigences de son employeur qu'à une saine préparation au point de vue du temps. Nous pouvons ajouter qu'à situations exceptionnelles, il faudra convenir de solutions exceptionnelles. C'est ainsi que des fiancés, séparés géographiquement pour cause d'études prolongées, ont choisi de se marier, tout en sachant qu'ils n'habiteraient ensemble que trop rarement jusqu'à ce que le premier des deux soit en mesure de subvenir aux besoins du foyer. Cette solution, pour autant qu'elle soit provisoire et solidement préparée, peut être meilleure que des fiançailles interminables et sans comparaison avec le concubinage. 4. Une question de justice. Fais pour les autres ce que tu veux qu'ils fassent pour toi, conformément à Matthieu 7, verset 12. J'ai posé la question suivante dans divers pays et au cours de plusieurs années à des groupes d'étudiants, lycéens et universitaires, tant chrétiens que non chrétiens. Préférez-vous épouser une jeune fille qui a eu plusieurs expériences sexuelles avec d'autres hommes ou une jeune fille qui se sera réservée pour vous, le mari? J'espère que mes lectrices seront ici très attentives. Plus de 99% d'entre eux ont choisi sérieusement et sans aucune hésitation la seconde option. Le sondage aurait-il d'autres résultats si l'on questionnait les demoiselles? J'en doute fort. Faire aux autres ce que je veux qu'ils me fassent est la plus élémentaire des justices. J'ai dit à ces jeunes gens, si vous voulez épouser demain une jeune fille vierge, vous devez la respecter aujourd'hui. Autrement, comment pourriez-vous exiger que votre femme se réserve pour vous? Rester vierge jusqu'au mariage, pour l'homme comme pour la femme, est la chose la plus normale et naturelle qui soit. C'est une évidence inscrite dans le cœur humain. L'immense majorité le souhaite secrètement, tout en s'en moquant verbalement. L'hypocrisie, tant décriée, doit commencer par être extirpée du cœur de ceux qui la dénoncent chez les autres. Si, dans le milieu de la prostitution, la virginité y est dénigrée et ridiculisée en façade, elle vaut en réalité une fortune pour le proxénète. Ce dernier ne manque pas de l'exiger de celui qui cherche à s'unir à une fille vierge. Nous n'avons qu'une seule fois dans la vie une première relation sexuelle, et même le diable le sait. Ma mère me disait parfois, « L'amour est comme un gâteau. Si tu en donnes une tranche à celle-ci et un tiers à celle-là, que te reste-t-il à offrir à ta femme le jour du mariage ?» Celui ou celle qui s'engage dans une ou plusieurs relations sexuelles avant son mariage n'aura plus le cadeau de l'exclusivité pour sa bien-aimée ou son bien-aimé dans la corbeille des noces. Pour Michel et moi, tout en étant mutuellement prêts à découvrir et à assumer un passé différent chez l'autre, ce fut avec des sentiments de gratitude l'un envers l'autre et envers le Seigneur que nous avons pu aborder cette question au cours de nos fiançailles. 5. Une relation sexuelle, même protégée, comporte un danger de contamination par le virus du sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Dans une bande dessinée distribuée comme prévention contre le sida auprès de milliers d'élèves, nous trouvons la question de savoir que faire si un préservatif se déchire dans un rapport sexuel. La réponse précise qu'il n'y a pas d'autre solution que d'attendre 3 mois pour faire un test de dépistage, pour savoir s'il y a eu infection ou non, avec pour rappel que certains lubrifiants peuvent rendre cassants les meilleurs préservatifs. Pouvez-vous imaginer 100 adolescents ayant de multiples partenaires au cours de l'année avec, à chaque relation, un risque même mineur de contamination? Même si, le jour de l'an, un très faible pourcentage séropositif, le risque de contaminer d'autres jeunes en une seule année, tout en se protégeant, est bien réel. Ce risque est valable pour soi, mais aussi pour notre partenaire et pour toute la société. La seule protection totale contre le sida, au niveau sexuel, est l'abstinence ou la fidélité entre deux personnes séronégatives. 6. Une relation sexuelle hors mariage, même avec son ou sa fiancée, ouvre plus facilement la porte à une relation extra-conjugale après le mariage. Si mon fiancé ou ma fiancée se permet d'avoir avec moi une relation sexuelle hors mariage, son éthique est lézardée. Un bon coup de boutoir au moment opportun. Maladie, mésentente, voyage, etc. pourra, quelques années plus tard, renverser le mur de protection conjugale. Une telle relation fragilise donc la vie familiale. 7. Une conception hors mariage comporte des risques pour les parents et pour l'enfant. Aucune méthode de contraception n'est sûre à 100%. Attendre un enfant avant d'être marié change tout simplement les données. Nous ne sommes plus deux, mais déjà trois ou plus. Rappelons que des fiançailles saines devraient pouvoir être rompues. Personne n'est à l'abri d'une volte-face incompréhensible, d'un conflit sérieux, d'un accident, d'une maladie grave ou d'une dépression qui retarde ou empêche un mariage. D'autres éléments, rares mais bien réels et totalement imprévisibles, comme un décès, une disparition ou d'autres bouleversements dramatiques, ne peuvent être exclus. Tout cela sans compter les cas, malheureusement moins rares, du fiancé qui, ayant obtenu ce qu'il voulait, se désintéresse de sa promise, ou de celui qui panique soudain devant ses responsabilités et disparaît dans la nature. Une relation sexuelle entre fiancés peut donc donner naissance à un enfant qui n'aura jamais de parents unis. Avez-vous apprécié votre privilège de grandir avec un père et une mère? Offrez la même sécurité à vos enfants. Avez-vous souffert de l'absence de l'un de vos parents ou des deux pour les causes que nous évoquons? Évitez alors à vos enfants la souffrance que vous avez si bien connue. 8. Une conception hors mariage et de plus non désirée s'achève souvent par un avortement. Une relation sexuelle sous-entend une fécondation potentielle. On entend souvent dire, concernant l'interruption volontaire de grossesse, que la femme peut faire de son corps ce qu'elle veut. Mais précisément, il ne s'agit pas de son corps, mais de celui de son enfant, comme c'était le cas pour elle-même quand elle était dans le sein de sa propre mère. Dans le débat actuel, on utilise des cas extrêmes pour justifier une pratique généralisée de l'avortement. Pourtant, le témoignage d'une jeune fille, née suite au viol de sa mère, devrait nous faire réfléchir. Je remercie ma mère de ne pas m'avoir condamné à mort pour le crime de mon père. Si les progrès de la médecine se développent dans un souci de vérité, de nombreuses nations auront bientôt profondément honte d'avoir voté des lois conduisant légalement un tiers, et parfois plus, de leurs propres enfants, donc de leur propre peuple, dans les poubelles. N'est-il pas invraisemblable que dans une même ville, des dizaines de couples se battent des années durant pour avoir le droit d'adopter à grands frais un enfant qu'il leur faudra souvent aller chercher outre-mer, alors qu'au même moment les hôpitaux avortent un bébé à naître sur deux? Comment une telle société échappera-t-elle au jugement divin? L'avortement est un crime dont le père, autant que la mère, porte la responsabilité. Jésus a dénoncé le diable comme meurtrier, précisant que l'homme cherche à se conformer à ses désirs, conformément à Jean 8, verset 44. Sans profonde repentance, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, verset 15. L'Écriture nous révèle encore qu'un enfant peut tressaillir de joie et être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Luc 1, verset 15 et verset 44. Plusieurs passages nous parlent de l'œuvre et des plans de Dieu envers eux. Par exemple, psaume 139. Contrairement à ce qui est officiellement prôné dans nos écoles, la solution à une grossesse non désirée n'est pas l'avortement, mais elle peut être, par exemple, l'adoption. Terminons ce triste point en nous souvenant que nos futurs enfants prendront exemple sur nous. Pourrons-nous décemment leur dire que deux frères et sœurs sur cinq ont été écartés volontairement de la famille par papa et maman? Si oui, ne pourront-ils pas se demander avec raison si eux aussi auraient pu être rejetés de la même manière, s'ils avaient été conçus dans un ordre différent? 9. Une union sexuelle crée plus qu'un lien physique. Ce n'est pas un acte gratuit, comme on partagerait un morceau de pain ou une barre de chocolat avec un ami ou une amie. Paul nous fait comprendre qu'elle engendre une alliance, une codépendance qui, hors mariage, a un caractère bancal. Ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle, car il est écrit « Les deux ne seront plus qu'un seul être ». 1 Corinthiens 6, verset 16. Ce passage sous-entend une union de personnalité, un acte créateur. La mémoire, les sentiments, le corps en seront marqués et les unions légitimes futures pourront en être polluées. 10. Une relation sexuelle hors mariage crée un péril moral et spirituel. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et laissent les droits d'autrui n'entreront pas dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les adultères ou les pervers. 1 Corinthiens 6, verset 9. Fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Le récit de l'adultère du roi David nous montre la sollicitude de Dieu, qu'il invite à se repentir, puis lui pardonne, sans pour autant nous cacher les dramatiques conséquences familiales qui résulteront d'un tel acte. 2 Samuel 11 et 12, versets 1 à 14. Que dire du concubinage? Sa pratique pourrait augmenter sans cesse, et les raisons pour le justifier remplir les bibliothèques, cet usage n'en reste pas moins un facteur fragilisant pour la société et dévastateur pour les futures générations. Si une famille est unie et heureuse, mais fondée sur le sable du concubinage, la sagesse, comme beaucoup de couples touchés par l'Évangile l'ont compris, est de consolider leur alliance par le mariage. Soyez résolus. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Romains 12, verset 2. Ce n'est pas dans la tentation qu'il faut réfléchir à ce choix de vie, mais le plus tôt possible et de manière radicale. Au moment des fréquentations, cette résolution devra être partagée à deux sérieusement et sans compromis possible. Elle donnera une confiance et un respect mutuel très beaux à vivre. Dernièrement, dans une campagne d'évangélisation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai donné aux jeunes gens l'occasion de prendre cette résolution publiquement. Deux personnes de l'équipe, dont mon épouse, se sont agenouillées comme exemple au milieu de l'esplanade. Sur les 4000 personnes présentes, près de 1000 jeunes les ont rejointes. Ils ont ainsi pris publiquement l'engagement de vivre une vie sexuelle selon Dieu. Face à des sociétés en décomposition, menacées par le sida et abreuvées de médias quelquefois immoraux jusqu'au fanatisme, des jeunes choisissent comme fondement de leur vie la force, la pureté et la droiture qui viennent de la parole de Dieu.